Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface et sur la boutique en ligne lescapricesdethérèse.com. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au programme de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. On va démarrer dans un instant avec notre coup de cœur ciné cette semaine. Ça vient tout juste de sortir en salle. Ça s'appelle Testament, un film québécois. On va recevoir la productrice Denise Robert, accompagnée des comédiennes Caroline Néron et du comédien Rémi Girard. Nos coups de cœur télé cette semaine avec Anne Caillon à l'affiche de Bellefond demain soir sur France 3 pour un nouvel opus. Kamel Belghazi, toujours à l'affiche de Demain nous appartient. Marine Incanto et Vincent Hennen seront à l'affiche de la série Follow, dont vous verrez les épisodes 3 et 4, ça sera dimanche soir sur 13e rue. Et puis Alexandre Varga également sera notre invité exceptionnel pour Meurtre dans le Cantal, qui sera diffusé samedi sur France 3. Et puis en fin d'émission, on parlera également de la sortie plateforme, ça c'est vendredi, sur France.tv de Mère Indigne, la première série créée par Anne-Elisabeth Blateau, notre Emma de scène de ménage, s'essaye à la réalisation notamment, et puis surtout à la comédie. On recevra toutes les équipe quasiment avec Romain Fisson, le co-réalisateur de Anne-Elisabeth, Khaled Amara, le producteur, ainsi que les comédiens Bayar Riaz et Jean-Baptiste Chelmerdine. Vous l'avez compris, c'est bien rempli. Alors on y va, on commence tout de suite avec notre coup de cœur ciné.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma cette semaine est consacré à un coup de cœur québécois, une fois n'est pas coutume. Et on aime bien justement parler des films du Québec avec Testament, le nouveau film de Denis Arcand. Et on a la chance de recevoir aujourd'hui notamment la productrice Denise Robert qui est avec nous. Bonjour Denise.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a également Caroline Néron qui est avec nous. Bonjour Caroline, qui joue une ministre dans le film.
Bonjour, enchanté.
Merci d'être là. Et Rémi Girard qui incarne Jean-Michel
Bouchard.
Bouchard, que vous allez voir, vous allez très vite vous attacher. Qui a eu l'idée de départ de Testament? Parce que on y suit, on va en parler après, mais on y suit plusieurs histoires un peu en parallèle. Mais c'est d'abord évidemment l'histoire de Jean-Michel qu'on va suivre en premier. Une histoire de solitude en quelque sorte, de ne plus envie finalement, plus envie. Voilà, plus envie de vivre, forcément, voilà, à pleine dent, sans la fin, et on se dit, bah, on attend la fin patiemment, sans aucune dépression, aucune. Mais voilà, et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se passent dans le film, qui vont peut-être lui faire virer sa cutie, comme on dit en France. Mais on va en parler. Denise, pour commencer, donc, qui a eu l'idée de ce film?
C'est Denis Arcand. Alors, c'est pas quelqu'un qui a plus envie de vivre, au contraire. Il a l'impression qu'il est rendu à la fin de sa vie.
Ça, je dis, c'est pas une dépression. Finalement, c'est quelqu'un qui se dit, bah, je suis au bout, tout simplement.
J'ai tout fait. J'ai écrit des romans qui n'ont pas eu beaucoup de succès, etc. Et qu'il a un regard très, très quotidien sur sa vie. C'est quelqu'un qui avance, qui rencontre des gens, ces gens-là vont un peu changer sa trajectoire et lui faire découvrir un peu de bonheur.
Exactement, lui apporter cette fenêtre de bonheur. Qu'est-ce qui vous a plu, Rémi, dans ce rôle de Jean-Michel au premier abord?
D'abord, cette espèce de réflexion que Denis a sur la vie, sur j'ai beaucoup aimé le scénario, j'ai beaucoup aimé son humour aussi. J'arrive moi-même à l'âge du personnage et j'ai évidemment pas la même vie que Jean-Michel. Je suis pas dans un foyer de pauvres vieillards, mais il y a des réflexions que tu te poses quand même. Est-ce qu'on est rendu enfin au bout de la vie? Qu'est-ce que puis, tu regardes qu'est-ce que t'as fait dans le passé et tout. Je comprenais très bien ce que Jean-Michel Bouchard pouvait vivre sans la solitude, parce que lui, en plus, il y a la solitude. Il est dans un foyer pour personnes âgées. Et puis c'est ça.
On appelle ça maison des aînés d'ailleurs là-bas. On appelle pas ça un EHPAD. On appelle pas ça qui est pas très joli. Mais là-bas c'est la maison des aînés. Je trouve ça beaucoup plus joli.
Oui, c'est beaucoup plus joli. Voilà un exemple là où je suis en arrière. Vous voyez, moi j'appelle ça une maison pour personnes âgées, mais là faudrait pas dire ça. Comme on dit dans le film, faut pas dire ça, faut dire la maison des aînés, Rémi. Ah bon, je m'excuse auprès des auditeurs, c'est la maison des aînés. Le film, c'est ça aussi. On parle de ça. Ah non, ce mot-là, c'est plus ça. Hein, c'est changé. C'est toute la réflexion, ça fait partie de la réflexion du film.
C'est vrai, la réflexion du film. Puis on va y suivre plusieurs histoires en fait en parallèle, dont une importante, c'est une histoire de peinture qui va mettre un peu le feu aux poudres, et notamment d'une espèce de manifestation qui va se passer devant cette maison des aînés. Et d'ailleurs, la ministre va carrément être obligée de s'emparer un peu de l'affaire finalement. Et on apprend plein de choses finalement sur le Québec. C'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi dans Testament, sur les Premières Nations.
En fait, moi surtout, je pense que le rôle de mon personnage, c'est de démontrer que le gouvernement, finalement, on gouverne pas avec la réalité, mais avec les apparences. Donc, je relance la balle à tout le monde.
J'ai adoré cette réflexion.
Oui, tout à fait. Puis c'est un peu comme ça que je l'ai joué. J'avais des grands monologues et pour moi, c'était important d'avoir l'air convaincu et convaincante. Mais alors là, est-ce que les choses changent dans la vie? Est-ce qu'on peut vraiment faire avancer? Ça avance, oui, mais très tranquillement. Et est-ce que c'est par le gouvernement? Je pense que c'est à partir des réflexions je pense que c'est l'évolution qui fait en sorte que les choses évoluent, mais ça reste que pour moi, c'est pas mon personnage qui va apporter une différence, qui va amener une différence dans tout le scénario, mais plutôt de dire que de porter des réflexions. Tu sais, je pense qu'on réfléchit après un film de Denis Arcand. Tu sais, on réfléchit sur l'ensemble de l'œuvre. Quelle est notre société? Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on est rendu? Alors, c'est vraiment ça pour moi.
Ce qui est drôle aussi dans le personnage de Caroline, c'est que dans cette histoire-là, et toujours, le gouvernement ne dit pas comment on va solutionner le problème, c'est comment le problème va-t-il être perçu?
Oui,
où sont les médias? Est-ce qu'ils sont arrivés? Est-ce qu'il y a les médias?
Il faut sauver les apparences, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est ça qui est drôle.
Est-ce que les médias sont là? Oh merde.
C'est comme en France.
C'est ça. Mais en fait, Denis Arcand, c'est un historien. Donc, Denis raconte simplement une histoire de cet homme qui est désillusionné un peu de la vie et qui retrouve un peu de bonheur quelque part. Mais il ne juge pas, il ne critique pas, il fait simplement mettre un miroir dans ce que nous sommes, et il nous laisse, nous, le soin de nous juger nous-mêmes. C'est ça qui où il y a des scènes absolument délicieuses, c'est très drôle, mais comme Denis dit, moi, là, j'ai pas le talent d'inventer les choses. Denis prend le miroir, puis il va mettre en scène ce qu'il a vécu ou ce qu'il a observé, sans en ajouter, sans en mettre plus ou moins. C'est un miroir. Et puis, c'est souvent, on est un peu débalancé quand on se regarde. C'est comme se regarder le matin quand on se lève dans le miroir. Puis tu te dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Denis a un plaisir à simplement lui raconter son histoire, une histoire d'amour, une histoire remplie d'espoir. Il n'y a pas de personnes âgées. C'est des gens qui ont une réflexion sur notre société qui est en évolution. Il y a des mots qu'on peut plus dire, il y a des choses qu'on peut plus faire. Les gens se tatouent. Alors, c'est ce regard sur l'évolution autour de lui et comment il peut apprendre de ça et grandir avec ça. Parce qu'il ne le juge pas, il dit pas, ben c'est bon de faire ci ou de faire ça. Il essaie juste de grandir avec ces éléments-là.
Il amène une sacrée autre réflexion, ce film, on va en parler juste après la bande-annonce, ça s'appelle Testament, c'est mercredi au cinéma. Denise, Caroline et Rémi, on revient juste après, à tout de suite.
Allez vous faire foutre.
Respect for First Nations.
Oh my god, est-ce qu'il y a des médias?
J'en ai pas vu encore.
C'est bizarre parce que d'habitude, la vermine arrive assez rapidement.
Bonjour.
Hi.
There's a painting in there that's an insult to First Nations.
Vous êtes sûr?
C'est quelque chose, ça, madame.
Mais la réalité, c'est...
Madame, on gouverne pas avec la réalité, on gouverne avec les apparences.
L'année qui vient de s'écrouler... De s'écouler?
On peut plus vieillir à personne!
J'ai l'impression que ça va mal finir tout seul.
De temps en temps, faut poser des gestes gratuits de bonté. C'est ce qui rend la vie supportable.
J'ai jamais été capable de faire ça, ces affaires-là.
Voilà, Testament, c'est notre coup de cœur québécois. C'est notre cinquième, je crois, coup de cœur québécois. On aime bien, justement, parler de ce cinéma-là, qui est important en France et dont on a de plus en plus sa fenêtre. Et en plus, Testament amène une réflexion hyper intéressante. Peut-on avancer dans le futur sans renier notre passé? Et c'est un peu la question qui est posée à travers cette toile. Est-il important de la laisser à travers la manifestation, justement, de ces Premières Nations qui se revendiquent au Québec? Doit-on la laisser pour permettre aux générations futures de savoir ce que le passé a vécu? Ou est-ce qu'il vaut mieux gommer ce passé pour avancer plus vite, mieux, peut-être? Et cette question-là, elle est posée sans jugement. C'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant, mine de rien.
C'est ça, parce qu'il faut... moi, ce que j'en comprends, ce que j'apprends, faut pas juger le passé. Faut le regarder, l'apprendre. Et
il peut nous aider à avancer.
C'est ça qui aide à avancer. C'est de savoir d'où on vient pour être capable de savoir où aller. Parce que simplement avancer pour avancer, je veux dire, dans la vie, il faut savoir où aller. Et c'est notre passé qui nous permet de nous apprendre. Quel chemin prendre.
Rémi, j'ai trouvé qu'il y avait des scènes d'une tendresse infinie avec cette jeune femme qui vient vous visiter toutes les semaines. Ça fait partie d'un peu de l'histoire solitude du film et qui finalement apporte cette bouffée d'air toutes les semaines, qui vient tout simplement voilà discuter avec lui, vient passer un moment avec lui. C'est des moments de tendresse qui sont infinis.
Et ça lui permet, lui, de, comme il est seul dans la vie, il n'y a pas d'amoureuse, il n'y a pas de femme dans sa vie, ça lui permet aussi de se poser des questions sur lui-même, de retrouver son besoin de dire « moi, j'ai la tendresse pour les choses, moi, je veux dire », de s'épancher. Tout ça. Alors, c'est pas une psy, c'est pas comme s'il était au psy. Non, c'est juste quelqu'un à qui parler et quelqu'un à dire les vraies choses, quelqu'un qui nous écoute. Il y a quelqu'un qui m'écoute, donc je peux dire les vraies choses. Et malheureusement, je dois payer pour ça.
c'est ça.
Une réflexion terrible, c'est que les hommes en général doivent payer pour avoir un peu d'affection. Ça, c'est une des phrases que j'aime beaucoup.
C'est pas faux, hein, dites donc. Alors, il y a... Ça va pas être sans éveiller quand même un peu une pseudo-jalousie quand même de la directrice de la maison des aînés, dites-moi.
Sans dévoiler rien de choses, mais je veux dire, il y a...
Même sous la torture, il dira rien.
il y a une relation particulière avec la directrice. Je pense que mon personnage est secrètement amoureux d'elle.
Et elle a une affection particulière pour lui. On le sent aussi pour Jean-Michel, en tout cas. Bon, on va revenir sur cette ministre, Caroline. J'imagine le plaisir que vous avez eu à jouer ce personnage. On a toujours plaisir, j'ai l'impression, pour un comédien. Il y a toujours une sorte de plaisir à jouer nos institutions, finalement.
Tout à fait. Et je vous dirais, mais moi, d'emblée, je pense que Denis Arcand m'aurait demandé de faire n'importe quel rôle que je l'aurais pris. Parce que chez nous, Denis Arcand, c'est quand même quelqu'un, c'est un monument. C'est quelqu'un qui...
Cinéma québécois, oui.
Ah, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, et je vais vous avouer que c'est un challenge d'avoir à faire des monologues aussi grands et de pas comprendre totalement ce que je dis. Et ce que je me répétais à la lecture, c'est un peu à l'image souvent de la politique, tu sais, il faut avoir l'air de savoir et d'être vraiment présent et d'être sur le terrain et de contrôler, alors que dans les faits, il y a tellement d'intervenants, qui fait que
la fameuse apparence.
Exactement. Donc pour moi, c'était très clair en lisant le texte. Je trouvais qu'il avait touché un point qui va probablement éveiller des gens par rapport à c'est quoi notre situation, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire du changement, parce que est-ce que ça se passe là ou ça se passe avec nous-mêmes, si c'est nous qui peut finalement apporter le changement. Donc voilà. Donc moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Je l'ai fait comme une professionnelle, comme une ministre qui se lance et qui se retrouve à parler devant les gens avec une assurance et quelque chose d'impeccable, mais dans les faits, est-ce que les choses vont se passer? Non, je vais relayer. Je vais renvoyer la balle à quelqu'un d'autre et voilà.
Il y a une chose qui est à peu près similaire à la France, ce qu'il va falloir réveiller, surtout, c'est les ministres derrière vous.
Ah, tout à fait.
Ça dort là-bas aussi, hein, j'ai l'impression.
Mais je vais vous avouer que moi, je pense que c'est comme ça un peu partout. Tu sais, je pense que les changements, c'est nous qui peuvent les apporter. C'est les gens qu'il faut qu'ils se réveillent. C'est à chacun de nous de prendre notre histoire puis d'aller un peu pour reprendre ce que tu disais, Denis. C'est nous, les réflexions qui... C'est ça que j'aime des films de Denis Arcand, c'est qu'on réfléchit tout le long et on comprend plein de choses. Et après ça, on peut faire notre propre jugement sur comment on veut continuer notre vie. sais.
Vous avez cette fameuse scène à l'Assemblée, justement. On voit vraiment le ministre de l'Éducation nationale piquer du nez derrière. On a l'impression vraiment que Denis Arcand a passé beaucoup de temps à regarder nos sessions d'Assemblée nationale sur la chaîne parlementaire en France. C'est tellement similaire. Bon, en tout cas, on va terminer peut-être par vos meilleurs souvenirs sur ce film, que ce soit peut-être en tant que productrice ou en tant que comédien, tous les deux, Rémi et Caroline. Denise, quel a été peut-être le plus grand plaisir pour vous sur ce film ?
De voir Denis Arcand avoir un plaisir fou à travailler avec les acteurs qu'il aime. Il s'est dit, moi pour ce film, je veux travailler avec les gens que j'aime, les acteurs avec qui j'ai envie de travailler. Et je pense tout le bottin de l'UDA joue dans le film. Il a eu un bonheur fou.
Rémi ?
C'est mon 7e film avec Denis Arcand. Ça fait 40 ans que je tourne avec Denis Arcand. C'est toujours un plaisir.
C'est une vieille histoire d'amour, ça.
Oui. Pourquoi pas?
Dans le cinéma.
On se comprend par le cinéma, on se comprend par l'humour. Par l'humour, c'est très important.
Exactement. Caroline?
Moi, c'était de renouer. C'était la deuxième fois que je faisais un film avec Denis Arcand, mais c'est quelqu'un que j'ai toujours dit à quel point j'admirais pour sa culture, son intelligence, son côté humain. Et c'était de retrouver ça sur un plateau. Et là, j'ai juste hâte de voir le film demain. Je n'ai que du bonheur et que du plaisir à me remémorer ces moments-là. Ouais.
Bon, en tout cas, le film sort dans 2 jours au cinéma. Allez le voir, ça s'appelle Testament. Vous y verrez tout plein de comédiens et de personnages, tous aussi attachants les uns que les autres. Et puis, vous verrez, hein, il y a des petits retournements de situation, il y a des choses inattendues. C'est ça qu'on aime aussi dans les films. Alors, allez voir Testament. Restez-y jusqu'au bout. Vous aurez de belles surprises, en tout cas, qui vous attendent sur ce film. Merci. Merci beaucoup, Denise. Merci, Rémi. Merci, Caroline, d'avoir été avec nous.
Merci de votre générosité.
Merci, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Tant que l'ensemble reste, on se rend immortel devant l'apocalypse. En faisant l'amour, on résiste. Regarde-moi, prends-moi la main. Ma bouche, ton dos sensuel, à mort nos cœurs accros.
On s'embrase dans les flammes.
Quoi qu'ils en pensent, des conséquences, des fesses, cette danse.
On s'embrase dans les flammes.
Je serre ton corps si fort.
Tant que l'on s'en laisse, on existe.
retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé. Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à Bellefond. On était là pour le premier épisode aux côtés de Émilie, Sarah Barbeau et avec Stéphane Bern. Et puis, on va mettre ces personnages à l'honneur au fur et à mesure des épisodes qu'on va découvrir. C'est le deuxième demain soir sur France 3. Et on va mettre le personnage de Anne Caillon à l'honneur qui est avec nous. Bonjour Anne.
Bonjour Alain.
Quel bonheur de te retrouver. Écoute, franchement, on a l'impression qu'on s'est jamais quitté. À la fois, ça fait longtemps maintenant, hein, avec Demain nous appartient, qu'on a quitté le personnage de Fleur Valorta. Et là, on te retrouve dans ce personnage d'Audrey, en tout cas, dans Bellefond, avec toujours ce sourire qui te va si bien, en tout cas, et ces petites répliques qui font souvent mouche avec ce personnage aussi. Hein.
Oui, on s'amuse avec ce personnage. Oui. En réaction au personnage de Stéphane, ça m'a beaucoup amusé parce que c'est pas du tout les mêmes tempéraments et c'est très très marrant à jouer. C'est un peu plus comédie, hein, c'est ce que je jouais dans des.
Oui, exactement, parce que je crois que ces derniers temps, t'as pleuré beaucoup, hein, quand même. Hein.
Je
crois
que fait que ça.
C'était que un truc de dingue.
J'ai ma vie avec des poches de glace sous les yeux.
Bon, en tout cas là, on sourit effectivement. Quand on t'a dit tu vas jouer avec Stéphane Bern, est-ce que ça crée quelques réticences, quelques peurs, où on se dit ouah chouette, ça va être un challenge parce qu'on va jouer avec quelqu'un qui n'est pas forcément habitué à jouer à la comédie, c'est un animateur. Comment on aborde ça ?
Déjà, j'avais déjà joué avec quelqu'un, a priori, qui n'était pas voué à la comédie, Jean Kretschmann. Donc, on est quand même surpris par les gens. Parfois, en effet, ils n'ont pas de formation, mais bon, ils ont quand même le don pour. Après, Stéphane Bern, c'était une grosse surprise. J'avais aucune idée qu'il avait des vérités de comédien. Et j'en ai parlé un peu autour de moi. Et ce qui m'a stupéfaite, c'est la popularité de ce garçon. C'est-à-dire combien les gens l'aiment, c'est inouï. Il fait l'unanimité. Et quand j'ai rencontré Stéphane, mais je suis tombée amoureuse de lui. C'est un garçon attentif, il est à l'écoute des autres, il est humble, très humble. En fait, c'est un petit peu, c'est sa marotte, il a envie de jouer. C'est les deux mois où on tourne ensemble chaque année. C'est comme une récréation par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Et il est dans le désir d'apprendre, qui est extraordinaire. C'est comme, il a cette candeur d'un débutant qu'il est, hein, et qu'il assume totalement, et un désir fou d'apprendre auprès de tous les comédiens qu'il côtoie, et à un point où parfois même il dit lui-même qu'il est au spectacle quand il nous voit jouer. Donc c'était très amusant et très rafraîchissant.
Pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode, Anne, comment tu pourrais nous définir Audrey ?
Eh bien, c'est une personne plutôt droite dans ses bottes, un peu frustre comme personnage, qui a quand même son petit vécu, dont on parle peu, mais on comprend au début qu'ils ont eu une petite aventure quand ils étaient jeunes, qui était très très amusant à jouer d'ailleurs. C'est tout à fait improbable. Et elle est rentre dedans, elle va un peu trop vite. Elle fait des conclusions un peu hâtives, ce qui la met souvent dans une position à défaut vis-à-vis du personnage de Stéphane, de Bellefond, hein, parce que Bellefond, se pose davantage de questions qu'elle. Elle se pose peu de questions. Et ce qui crée des situations comiques aussi entre nous deux, où je suis très péremptoire avec lui, mais bon, cependant, il me vexe parce qu'il a toujours raison, hein, quand même. Et donc, voilà, c'est un personnage plutôt amusant et franc. Franc du collier, avec peu de zones d'ombre.
Bon, ouais. Et là, dans ce nouvel épisode, c'est Camille, hein, l'étudiante de Antoine Bellefond, qui va venir l'appeler à la rescousse pour défendre son professeur accusé de viol, qu'elle pense peut-être être accusé. En tout cas, Camille, elle pense qu'il est accusé injustement. Et donc, elle va appeler Bellefond à la rescousse. Mais, ce qu'on se doute pas, c'est que quand Bellefond va aller interroger ce professeur incarné avec brio par François-David Cardonnel, c'est que c'est ton personnage qui est sur l'enquête.
Évidemment.
Autrement, ça serait pas drôle.
Sinon, ce serait pas drôle. Mais bon, on fréquente un peu les mêmes régions et c'est les hasards de la vie, c'est extraordinaire. Et François-David Cardonnel, que j'étais d'ailleurs heureuse de retrouver parce que j'avais tourné cette série qui s'appelait Dos au mur avec lui il y a 10 ans.
Ouais.
Puisque je venais juste d'avoir ma fille et on avait tourné pendant 5 mois à Grenoble et je l'avais pas revu depuis. Et en effet, il est très investi, il est super dans le rôle, hein. Il est très touchant. Et j'étais très très heureuse de le retrouver. C'est très bien entendu que Stéphane aussi, c'était aussi un cadeau. Ça. Les guests aussi sont des cadeaux.
Mais oui, Armel Dutch, qui est formidable.
Ouais, exactement. Bah, qui est une copine dans la vie que je vois peu, mais on s'entend à merveille. Et j'étais très très heureuse aussi qu'elle joue dans le film. Qu'elle est formidable.
Bon, alors comme je sais à peu près tout, j'essaye du moins. Il paraît qu'il y a déjà un troisième et quatrième épisode dans la boîte.
Absolument. Nous venons de les tourner là en septembre-octobre. Oui. Et on continue nos enquêtes ensemble. Pas de chance.
Eh ben, c'est génial, ça. Oui.
Ouais.
Ça va donner encore des duos savoureux et quelques petites joutes verbales sympathiques.
Exactement. Ouais. C'est la joie de se retrouver. On s'amuse énormément.
J'imagine, hein, franchement, Anne, que c'est une question qu'on te pose encore tous les jours. Mais tu as incarné un personnage qui a marqué tellement aujourd'hui la télévision, celui de Fleur Valorta pendant 4 ans dans Demain nous appartient. Et on sait que le personnage aujourd'hui est en hôpital psychiatrique. Ouais. Est-il possible qu'un jour il en sorte?
C'est pas exclu, on verra. Moi, c'était un désir mutuel, un moment de faire une pause. Hein. C'est-à-dire, les auteurs étaient peu inspirés par le personnage à un moment. Ils avaient traversé beaucoup de choses et voilà.
Ils aimaient faire pleurer les auteurs.
Beaucoup. Et moi, c'est vrai, pour des questions de vie personnelle aussi, ma fille grandissant, j'ai commencé la série. Ma fille avait 5 ans et elle allait en avoir 10. Entre en 6e, et moi, c'était une vie qui était compliquée pour moi, si je pouvais pas m'installer dans le sud, et je la voyais trop peu, donc le rythme de la quotidienne devenait vraiment difficile pour ma vie personnelle.
Bon, en tout cas, t'es pas merveille. Contre un retour éventuel exceptionnel pour une arche, une intrigue éventuelle à l'avenir, en tout cas.
Non, bien sûr que non. Je serais ravie de retrouver mes camarades que je vois quand je peux à Paris. Oui.
L'appel est lancé.
Je n'appelle pas à ça, mais je ne serai jamais contre retrouver mes camarades. Ça, c'est ça.
Bon, les projets pour toi aussi, pour les mois qui viennent, on va te voir dans quoi? Est-ce que tu as des projets cinéma, théâtre, télévision qui arrivent aussi?
Alors, qui vont être diffusés? Non, puisque tout a été diffusé, il me semble. Cependant, j'ai normalement 2 projets pour la rentrée, mais je préfère ne rien dire parce que ce n'est pas signé. Donc, d'expérience. Je sais que jusqu'au jour où on se retrouve sur un plateau, même on ne sait pas si tu vas se faire, donc je ne préfère pas en parler tout de suite. Voilà.
Et ben tu reviendras, ça c'est l'occasion.
Avec plaisir, avec grand plaisir.
Bon, oui. On t'embrasse fort et puis on te dit à très très vite. En tout cas, on retrouve Anne Caillon demain soir à 21h10. C'est le 2e épisode de Bellefond à ne pas rater avec Wendy Nieto, François-David Cardonnel, Armel Dutch. Bien sûr, il y a plein de beaux mondes, en tout cas autour de Stéphane Bern et de toi dans la série. Merci. Et puis on embrasse également Émilie et Sarah Barbeau, évidemment. Les co-réalisatrices. Absolument. Voilà, les deux sœurs qu'on
merci
aime aussi.
Beaucoup. On les adore.
Merci
beaucoup, Alain.
Et on se quitte tout de suite avec un petit extrait. C'est parti.
Midi. Bellefond et ses stagiaires face à un nouveau défi.
Hors de question que je défende un prof qui a violé une élève.
Si je suis devenu avocat, c'est justement pour éviter les erreurs judiciaires.
Aidez-moi, s'il vous plaît.
En piste.
Traquer la vérité sur le terrain.
Si vous foutez la merde dans mon enquête, je vous jure que j'hésiterai pas à vous coffrer, c'est clair.
Se méfier des apparences.
Pour être un bon avocat, on doit avoir une vue d'ensemble.
Résister à la pression.
Calmez-vous.
Je tiens à l'œil, Bellefond.
J'espère que vous aimez ce que vous voyez, commandante.
Stage en immersion avec Stéphane Bern. Demain à 21h10 sur France 3 et sur la plateforme France.tv.
Allez, coup de cœur pour Demain nous appartient. Vous le savez, c'est la série qu'on suit du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Et régulièrement, nous recevons les héros de la série. Et notamment Kamel Belghazi qui joue le rôle de William Donnier. Bonjour Kamel.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Écoute, je crois qu'il y a vraiment 2 rôles qui vont avoir marqué ta vie, celui de Noureddin et puis celui de William maintenant, hein, finalement.
Oui, c'est vrai que c'est un personnage assez présent et ça fait maintenant un certain nombre d'années que je l'interprète avec plaisir. Oui, il marque au même titre que les autres. Hein. J'espère qu'il y en aura d'autres, que ce ne sera pas le dernier en tout cas.
Oh non, ça j'en suis sûr, te connaissant. Les Donniers ont pris une place tellement importante dans Demain nous appartient. Aujourd'hui, avec les hauts, les bas d'une famille, évidemment, qu'on suit au fur et à mesure de leur pérégrination. Mais déjà, est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à l'incarner, en tout cas ce William avec toutes ses facettes?
Ah oui, bien sûr, et de plus en plus. Parce que justement, on découvre petit à petit, au gré des scénarios, les différentes facettes de ce personnage. Il y en a encore quelques-unes à explorer, donc...
C'est pas fini.
Non, exactement, c'est pas fini. Petit à petit, on développe, on découvre, on apprend, on s'enrichit, on enrichit le personnage et on se fait toujours autant plaisir.
Alors toi, c'était ta première série quotidienne, si je m'abuse, Demain nous appartient. Est-ce qu'on se fait rapidement au rythme de tournage qui est tellement intense, le nombre de prises qui est limité, faut aller vite, faut travailler vite. Est-ce qu'on s'habitue facilement?
On finit par s'habituer. L'important, c'est de pas perdre l'envie, c'est de pas perdre le côté artistique, le challenge artistique. Après, il y a un challenge technique qui est là, qui est plus pour le réalisateur et pour toute l'équipe mise en scène et la production. Et nous, on bénéficie du temps qu'on a pour jouer. L'important, c'est d'être prêt. Il y a beaucoup de travail. Moi, je travaille beaucoup en amont, ce qui me permet d'être assez réactif et prêt sur le plateau. Donc, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de temps, c'est embêtant, mais c'est pas pénalisant.
Alors, il y a pas mal de nouveaux médecins, du coup, à l'hôpital, hein, entre Aaron et Soizic, avec les personnages joués par notamment Charlie Nune. C'est top que ça se renouvelle aussi un petit peu comme ça. Ça permet de donner aussi un second souffle, de donner la réplique à d'autres comédiens, finalement.
Bien sûr, oui, il y a besoin, avec le départ de Samuel Chardot. C'est vrai qu'il s'est créé...
Alexandre Varga.
Et d'Alexandre Varga, c'est vrai qu'il s'est créé un vide... à l'hôpital qu'on n'avait pas forcément anticipé, donc il a fallu combler, et là il va y avoir peut-être d'autres personnages qui vont arriver, partir, enfin c'est le lot d'une quotidienne que de faire bouger les choses pour que les gens ne s'ennuient pas et qu'il y ait toujours des ressorts dramatiques dans ce genre de série.
Il y a un rapport hyper attachant entre toi et le personnage de Manon, mmh. évidemment, ouais. entre le père et sa fille, il y a un rapport hyper attachant avec Louvia.
Oui, de plus en plus. Et il y a aussi un rapport qui se développe dans la vie, parce qu'elle elle grandit, c'est une jeune femme, et elle progresse au niveau du jeu, elle s'embellit, elle devient de mieux en mieux. Et c'est vrai que les scénaristes nous écrivent de belles histoires et de beaux rapports entre un père et une fille. Moi qui ai deux filles, je le prends comme un cadeau en permanence. Et j'aime beaucoup, beaucoup travailler avec Louvia.
Et puis c'est chouette de la voir partir sur les traces un peu de sa mère, finalement. Oui, au grand dam de son père aussi, quand même, et de sa voiture rose.
C'est vrai, j'aurais préféré.
Le vilain.
J'aurais préféré qu'elle vienne faire médecine, mais bon, c'est pas très grave. L'important, c'est qu'elle soit toujours avec nous.
Il y a souvent des scènes de comédie, même s'il y a des scènes tendres, mais il y a aussi beaucoup de scènes de comédie entre toi et Louvia, et notamment toutes ces scènes autour de cette voiture rose que tu lui as offert. Et évidemment, ça a donné des scènes quand même relativement cocasses.
Oui, bah, l'objectif, c'était ça aussi. On en avait parlé avec les scénaristes, c'est de montrer, puisque tu parlais tout à l'heure des différentes facettes de ce personnage. Il y a aussi la facette humoristique, le côté humour de Miliam qu'on n'a pas encore exploré jusqu'au bout. Et petit à petit, on met les choses en place et j'espère qu'il y en aura de plus en plus.
Bah oui. Ça te laisse le temps pour faire d'autres choses, d'autres projets, justement. Qu'est-ce que tu développes pour les mois à venir?
Ouais, ça me laisse du temps pour faire autre chose. D'ailleurs, j'ai fait une mini-série, un 6x52 minutes, qui s'appelle Rivière perdue.
Oui, qui a été tourné à la Pyrénées orientales cet été.
Exactement, aux alentours de Perpignan. Très très beau projet, et j'ai été ravi d'avoir un personnage, de pouvoir jouer dans ce projet avec des très bons comédiens, très bons scénaristes, enfin une très belle histoire, un très bon réalisateur, une super équipe de techniciens. Vraiment que c'était un vrai plaisir d'être sur cette équipe-là pour ce projet-là.
Mais écoute, c'est déjà plein de belles choses qui t'arrivent. Du théâtre aussi, c'est quelque chose que tu aimes?
Ça viendra probablement. L'année prochaine, sans doute, il y a des choses qui se préparent au niveau du théâtre, et je vous en dirai plus quand on aura un peu avancé dans le projet, mais normalement ça se profile, tous les voyants sont au vert, on va dire.
Bon, quelques lignes de ce qui va arriver un peu à William dans les semaines qui arrivent.
Oui, bah de nouveau des petites scènes de comédie assez cocasses. Avec d'autres personnages, donc voilà, William reste dans la lignée
autour de la famille ou plutôt de l'hôpital, les personnages
de la famille, autour de la famille, un peu de l'hôpital, donc toujours dans la même lignée de l'humour de ce personnage. Très bien, moi j'adore.
Bah oui, ouais. Écoute, ouais. Franchement, et puis c'est la famille Donnier prend vraiment une importance importante. On te parle encore souvent de Nouredine?
Oui. Oui, bien sûr. Nouredine, c'est le personnage que j'ai incarné le plus longtemps et qui est un personnage emblématique d'une série.
Emblématique.
Comment emblématique? Voilà, je trouve que le mot est un peu faible même. Et évidemment que les gens me parlent toujours.
Série culte. Ouais, je crois qu'on peut y aller.
Exactement, série culte. Et c'est ce qui a fait de moi l'acteur que je suis aujourd'hui et qui m'a ouvert beaucoup de portes. Donc, ouais, bien sûr, évidemment, quand on me parle de Nouredine, on me parle d'abord et avant tout de Nouredine la plupart du temps. Je vous ai connu dans une famille formidable, je vous ai connu dans une famille formidable. Et là, je vous vois dans ça, mais je vous ai connu dans une famille formidable. C'est une des phrases que j'entends le plus.
C'est la meilleure des reconnaissances.
Oui, moi, ça me fait très plaisir. Je suis très heureux qu'on me dise ça.
Et en plus, maintenant, tu te retrouves avec Jennifer Lauré quand même dans la même série. Il faut le faire quand même.
Exactement, exactement. Non, c'est un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Même si on n'a pas encore tourné ensemble, je suis très content qu'elle soit là aussi.
Bon, t'as exploré pas mal de choses. Donc, t'auras été cuisinier, grand chef. Maintenant, t'es chirurgien. Ouais. C'est quoi maintenant que t'aimerais faire? Pompier volontaire une prochaine fois?
Un truc un peu plus de cascade, je sais pas, un truc un peu plus physique, ou un avocat, voilà, ce genre de choses, un truc un peu plus physique, ouais. Ouais, peut-être ça. Je sais pas encore quoi, mais ce genre de choses. Moi, j'adore skier, donc un truc à la montagne, ça me plairait bien.
Ben voilà, l'appel est lancé. Kamel Belghazi attend un petit rôle à la montagne sur des skis. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. On te retrouve évidemment du lundi au vendredi dans le rôle de William Donnier, évidemment, et bientôt dans Rivière perdue sur TF1 aux côtés de Barbara Cabrita et toute une pléiade d'acteurs formidables.
Jean-Michel Tinivelli, Nicolas Gobe, Bruno de Brandt, Annelise M, Odile Villemin.
Non, je t'ai plus.
Voilà.
À très vite, merci Kamel.
Merci, réalisé par Jean-Christophe Delpia.
Les meilleurs.
Adèle.
Oui.
J'aimerais que ça s'arrête jamais.
Ça y est, je m'habitue à être toi.
Je la trouve bizarre, Adèle, en ce moment.
L'autre petite peste, là, elle me dit de me mêler de ce qui me regarde.
Je sais que t'es pas Adèle.
Problème.
J'ai
fait envie qu'on aille vivre ailleurs.
Et mon père ?
C'est un peu n'importe quoi, hein. Partir à l'autre bout du monde sur un coup de tête.
S'il réagit comme ça, c'est parce qu'il est triste.
Le Canada, je sais pas si je suis prêt à tout quitter et tout recommencer là-bas.
Inédit, Demain nous appartient, la semaine prochaine à 19h10 sur TF1 et en streaming sur Myte.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à Meurtre dans le Cantal qui sera diffusé, ça sera samedi soir à 21h10 sur France 3. Ça fait toujours un carton en plus, cette collection. Et on y retrouve un nouveau duo d'enquêteurs, incarné notamment par Alexandre Varga, qui est notre invité. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour. Bonjour Alain.
Merci
bonjour
d'être là. Joséphine Jobert aussi. On va retrouver pour notre plus grand bonheur Zoé Séverin, qu'on adore aussi, à Florence Coste, deux petites recrues d'Ici Tout Commence qui sont également dans cette série. Benjamin Bourgois, c'est un peu le mélange, hein, justement, des séries quotidiennes aussi. C'est chouette parce qu'on aime tellement vous voir aussi dans d'autres rôles. C'est ça qui est bien.
C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Puis c'est un vrai plaisir de les avoir comme partenaires sur ce téléfilm. Donc, c'est un joli moment qu'on a partagé ensemble.
Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur Frédéric, justement, sur Frédéric Dussault?
Ah, ça a été un personnage j'ai pris beaucoup de plaisir à interpréter, mais c'est un personnage torturé, rongé par la culpabilité, qui a vécu un drame terrible, celui de perdre un enfant. En plus, il porte le poids de cette culpabilité, étant donné que il a perdu son fils lors d'une promenade à La Réunion, puisque lui, à la base, était affecté comme gendarme là-bas, à La Réunion, et ainsi que sa compagne, son épouse, donc le rôle de Sarah Waro, qui est interprété par Joséphine Jobert, et pendant une randonnée où il décide de prendre son fils avec lui, qui est en bas âge, hein, qui a à peu près dans les 6-7 ans, il a un moment d'inattention et malheureusement, son fils fait une chute mortelle, et à partir de là, c'est le destin de ce couple qui bascule dans le cauchemar.
Et qui vont se retrouver un an plus tard, pour le coup, sur cette enquête, puisque Joséphine Jobert va vouloir venir te retrouver. Voilà, va être affectée, en tout cas, pour t'aider sur cette enquête. On imagine bien que quand tu la vois arriver, voilà, ça fait remonter tellement de choses, c'est très compliqué, vous allez devoir faire équipe.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment après le décès, en fait, lui décide de tout plaquer et de rentrer en France sans vraiment la prévenir en plus de ça. Et il repart dans sa région natale, il rejoint un peu du côté de là où habitent ses parents. Et il est affecté donc dans cette gendarmerie du côté de Murat. Et elle, finalement, un an plus tard, va le rejoindre, alors qu'il n'est pas du tout au courant, évidemment. Et elle va demander, elle aussi, à être affectée dans cette gendarmerie pour être à ses côtés. Et c'est un peu le choc, effectivement, quand elle arrive sur ce moment-là, on est sur la scène de crime.
Hein,
oui. Voilà, la scène de crime de ce fameux Yann Privat, hein, qui est un restaurateur connu dans la région, réputé. Et c'est là qu'effectivement, il va se retrouver nez à nez avec elle. Il va d'ailleurs en vouloir beaucoup à sa hiérarchie de ne pas l'avoir prévenue. C'est ainsi qu'ils se retrouvent réunis, et elle aimerait effectivement recoller les morceaux. Aimerait malgré tout, malgré le décès de leur enfant, continuer leur vie ensemble, parce qu'elle est toujours amoureuse de lui, et au final elle ne lui en veut pas. Elle sait très bien, elle connaît les conditions de l'accident, les circonstances, mais lui il est terré dans sa tanière, on va dire, et il a honte, quoi. Voilà, il est rongé par la culpabilité, la honte, et il souffre terriblement. Donc ça va amener une relation assez compliquée au début, et qui va tout doucement, quand même, malgré tout, s'adoucir au fil du temps et de l'enquête. Ouais.
Et vont-ils se retrouver et rester ensemble à la fin? Est-ce qu'il y aura un happy end? Il faudra rester jusqu'à la fin du film.
C'est la grande
évidemment, pour le voir. On va dire que dans cette enquête, quand même, sur l'assassinat de Yann Privat, vous avez une liste de suspects impressionnante qui s'allonge. On va découvrir que l'homme était quand même un magouilleur hors pair.
Ouais, c'est ça. On va se rendre compte de toutes ces magouilles, et effectivement, il y a beaucoup de suspects, et donc ça va venir nourrir effectivement l'intrigue et la complexifier énormément.
Alors, on va y retrouver aussi au casting Pierre Denis, quand même, hein, ton patron dans Demain nous appartient, en quelque sorte.
Mon patron dans Demain nous appartient, effectivement, et accessoirement mon père dans ce meurtre-là, ouais, tout à fait.
C'est ça qui est assez dingue, c'est qu'on retrouve plein de guests, franchement, qu'on aime tellement. Benjamin Bourgois, qui, c'est pas compliqué, on l'a gardé avec le prénom d'Alex, comme ça, ceux qui regardent Ainsi grand soleil seront pas dépaysés.
C'est les hasards du scénario, mais effectivement, il a le même prénom. Ouais.
En tout cas, on est très séduit par tout ce casting. Meurtre dans le Cantal, c'est à ne pas rater. C'est donc samedi à 21h10. C'est alors, dis donc, Benjamin Ventura is back. est de retour à 7. Pour notre plus grand plaisir, ben, autant dire que les fans se sont déversés sur les réseaux sociaux pour dire leur bonheur de te revoir, en tout cas, à 7.
Oui, ouais, absolument. Ouais, c'est un joli retour et voilà, je suis très content. J'ai retrouvé mes partenaires aussi.
On sent pour le coup un Benjamin un petit peu plus apaisé après la mort évidemment d'Alma.
Oui, c'est vrai. Oui. Bah, il a fait. Bah, il est dans son deuil, mais effectivement, il est. Oui, il revient à 7, mais il a plus du tout envie d'exercer le métier de pédiatre. Il a vraiment envie de faire un virage à 180 degrés. Partir sur d'autres choses, c'est vrai qu'effectivement il est en recherche de ça, de sérénité, d'apaisement et il se cherche encore un petit peu, mais oui, il est plus posé, c'est vrai, absolument.
Mais bon, on a découvert que Soizic, comme à son habitude, a essayé de le divertir un petit peu quand même. Alors il y a aussi Cassandre, oui, évidemment, oui. Pour toi. Cassandre aussi, ça c'est une série avec un succès absolument incroyable et puis des nouveaux épisodes régulièrement, hein, bien sûr. Est-ce qu'il va y avoir une suite? Est-ce qu'on va voir des nouveaux épisodes bientôt?
Oui, tout à fait. Bah là, je viens juste de terminer justement encore un épisode. Là, on a fini à la fin du mois d'octobre. On est sur trois nouveaux épisodes là et ça va continuer encore l'année prochaine. Donc, on est très très heureux parce que c'est vrai que c'est une
belle aventure.
Super. C'est une très belle aventure. Ouais.
Eh ben, dis donc, tu chômes pas, hein, en tout cas. Allez, Meurtre dans le Cantal. Ouais. Ça, c'est samedi à 21h10. On te retrouve aussi du lundi au vendredi à 19h10 dans Demain nous appartient. Et puis, prochainement, pour de nouveaux épisodes inédits de Cassandre aux côtés de Gwendoline Amont, notamment. Merci beaucoup, Alexandre, absolument, d'avoir passé ces quelques minutes avec nous.
Ben, merci à vous. Merci. C'est un plaisir à chaque fois de venir.
Et à très vite.
Ouais, merci. Merci, Alain, à très vite.
C'est toi qui as découvert le corps, Bobesson.
Moi, je pense qu'on était à l'école ensemble, ça me fait tout drôle, moi.
Ouais, mais enfin, il me semble que vous étiez pas très amis tous les deux, non?
Non, on était en affaires. C'est moi qui fournis son restaurant en viande. Il veut du bio, moi, il voulait. Et c'est aussi moi qui fournis tes parents pour leur table d'hôtes.
Je sais.
Bon, qu'est-ce qu'il avait, Prima, dans la bouche? Un tissu rouge? C'est ça, c'était du crin. Là, c'est le drac. Toujours un gant rouge à la main droite et un gant de laine à la main gauche. Tu le sais bien, non? Les mains rouges du diable, le gant rouge, les animaux qui se mettent à faire n'importe quoi, ça c'est tous les signes du diable.
Capitaine? Je vous présente le capitaine Noireau qui va remplacer Fournier. Bon ben je vous laisse, bienvenue.
Bonjour monsieur, je vous ai entendu, le drac, qu'est-ce que c'est?
Une créature, un peu comme un lutin, toujours habillé en rouge, maléfique, vicieux, qui est là pour faire le mal. Il se déplace sur un cheval noir, a des allures hallucinantes. Je vais vous dire, le drac c'est une malédiction, vous comprenez? Il est là pour empoisonner la vie des gens, voilà.
Allez, la semaine dernière, vous avez vu débarquer une toute nouvelle série inédite sur 13e rue, ça s'appelle Follow, ou comment des fois les ravages et les dangers justement du numérique et notamment des réseaux sociaux se font ressentir à travers le personnage de Léna, que vous avez peut-être découvert la semaine dernière. En tout cas, je vous encourage à aller voir le replay si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes. La suite, c'est cette semaine, on va en parler avec Marilyn Canto qui nous rejoint. Bonjour Marilyn.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et qui interprète le personnage d'Agathe, et Vincent Hennen qui est avec nous. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Interprète Samir. Alors tous les deux, vous êtes un peu les enquêteurs. Pour situer un peu ce qui s'est passé, on va dire, dans les deux premiers épisodes, on y suit le personnage de Léna, qui est une community manager, qui vient d'intégrer le département de la préfecture de police de Paris, qui cherche à moderniser son image à travers les réseaux, et qui va se retrouver, eh ben, en fait, en lien avec votre enquête sur un tueur en série qui sévit en coupant un bout de pouce, justement, et avec quelque chose d'assez bien rodé et de méticuleux dans ses meurtres. Et donc, Léna va se retrouver en prise avec ce tueur en série. Voilà ce qu'on a vu un peu dans les deux premiers épisodes. Qu'est-ce qui vous a plu dans le projet, déjà, à tous les deux? On va commencer par Marilyn, quand même.
Bien sûr. Hein?
Mais ce que vous dites exactement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un film qui dont l'intrigue est quand même très particulière parce qu'elle passe justement par les réseaux sociaux, par la manipulation, par quelque chose d'assez mystérieux, quoi, de cette chose qui est la communication permanente avec un potentiel tueur qu'on n'arrive pas à saisir. Donc vraiment, le scénario, il était très particulier et très haletant, en fait. Donc moi, c'est ça qui m'a plu.
C'est très addictif, hein, on pourrait presque parler pour Léna d'emprise qui se fait ressentir au fur et à mesure. Vincent, pour toi, qu'est-ce qui t'a plu?
Alors moi, c'est l'ambiance générale du scénario. J'ai trouvé l'alchimie entre l'enquête et les dérives des réseaux sociaux assez intéressante et assez captivante. Et puis surtout l'univers 13e rue et le plaisir de retourner avec Louis Farge.
C'était pas une première, donc.
Ce n'était pas une première, non. J'avais déjà eu l'occasion de tourner sous la direction de Louis Farge sur également une série 13e rue qui s'appelle Cuisine Interne et pour laquelle on avait été également au Festival de La Rochelle.
Voilà, où là on découpait, c'était pas la même chose. Hein. Voilà. Depuis, vous avez été copié par Fabrice Eboué d'ailleurs. Voilà, on va pas en dire plus. Quel est votre peut-être votre meilleur souvenir, ce qui ressortira en tout cas, si j'aime bien qu'on se projette un peu dans le futur, si dans 5 ans on vous dit tiens, qu'est-ce que tu retiens en tout cas de Follow et du tournage par exemple, Marilyn.
D'abord, l'incroyable concentration de cette équipe. C'était pas une très grande équipe, et on était tous persuadés et on avait tous très envie de faire ce film. Donc, je pense qu'il y avait une espèce d'énergie de travail qui était assez rare, très belle. Et je pense que ça sent dans le film. C'est-à-dire que Louis, c'est vraiment un grand directeur d'acteurs, un grand réalisateur. Vraiment, je le pense. On était très unis. Voilà. L'unité qu'il y avait sur ce tournage, c'est magnifique. Mais vraiment.
Vincent?
Je compléterai juste en disant que c'est une des rares fois où j'avais l'impression de travailler en famille. On était tous très complémentaires et tous, comme dit Marilyn, on était habités par l'envie de faire un super projet ensemble.
Quand on est en plus dans une économie de chaîne comme 13ème rue avec une fiction, faut aller vite et tout, on a intérêt à tous aller dans le même sens. Ça, c'est une certitude en tout cas.
C'est surtout que la grande fierté que j'ai moi concernant Louis Farge, c'est qu'on faisait quand même 8 minutes utiles par jour. Alors 8 minutes utiles par jour,
c'est presque le double de ce qui se fait pour les autres chaînes.
Exactement. Donc on n'est pas dans le confort, mais bizarrement, sous la direction de Louis et puis avec des partenaires comme Marilyn, tout roulait tout droit.
C'est passé crème.
C'est passé crème, comme on dit, tout à fait.
Bon, on va parler de vos personnages un petit peu à tous les deux. Si on disait Agathe vue par Marilyn.
Alors, je dirais que c'est une femme qui est très obsessionnelle, très déterminée, et qui, sous des dehors douces, est très tenace, quoi, vraiment. C'est une espèce de gant de velours dans une main de fer, quoi. Vraiment, je pense que elle joue la douceur, elle joue le calme, et intérieurement, elle boue. Ça ne se voit pas, mais ça va se voir au fur et à mesure des épisodes. C'est ça qui était très intéressant. C'était comment le personnage évolue au fur et à mesure de l'enquête, comment elle se révèle au fur et à mesure de l'enquête.
Samir vu par Vincent.
Je dirais que Samir, c'est pour le coup le bras droit d'Agathe Ruffin, la commissaire. Ils ont une relation un peu particulière. C'est le seul qu'elle appelle par son prénom. Et je pense qu'il y a un côté où elle se reconnaît peut-être en lui, dans ce côté un peu fin limier et qui lâche pas, quoi.
Au début, vous voyez pas forcément d'un bon oeil l'arrivée de Léna quand même, hein. Et puis finalement, il y a vraiment l'un d'entre vous qui la prend un peu sous sa coupe et qui la prend au sérieux enfin. Quand elle dit, je crois bien que j'ai parlé au tueur.
Oui, en fait, moi je suis partagée, c'est-à-dire que j'ai besoin d'elle, je l'utilise, clairement je l'utilise, ça m'intéresse qu'elle m'apporte sa connaissance, et je pense qu'après, je sais qu'elle va vraiment nous aider, j'en suis persuadée, et je vais vraiment l'intégrer à l'équipe, contrairement aux autres justement.
Ou à celui qui lui barre la route avant de venir te parler, par exemple, hein, Samir?
C'est ça. Chauvel, qui est interprété par Oscar Kopp. Et je pense surtout qu'elle nous apporte une nouveauté dans cette équipe, c'est qu'on est tous un peu des bras cassés des réseaux sociaux et qu'en fait, elle, c'est un peu sa génération et surtout son métier. Donc, on est assez complémentaires là-dessus avec l'équipe.
Follow, c'est la série qui nous intéresse hein, cette semaine sur 13ème rue. Vous allez découvrir le 3ème et le 4ème épisode à ne pas manquer. On va se quitter avec un extrait. Je vous dis à très bientôt à tous les deux. Merci Marilyn, merci Vincent.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci beaucoup.
Capucine de Varennes, 35 ans, suivie par une communauté de 4,5 millions de followers. Elle a les pouces coupés, comme les autres victimes.
Nous, on est le visage digital de la préfecture. En gros, je réponds aux messages. Je crois que j'ai parlé au tueur. Si on trouve les bons indices qui nous amènent au bon compte, on peut peut-être comprendre ce qu'il veut.
Bonjour Léna. J'ai un nouveau jeu pour vous.
Laisse-moi tranquille!
Follow, la série événement. Dimanche 26 novembre. En exclusivité sur 13ème rue.
Allez, on se retrouve dans un instant dans Chute, on écoute la télé avec notre spécial Mère Indigne, Anne-Elisabeth Blateau, Bayareas, Jean-Baptiste, Chelmerdine, Khaled Amara et Romain Fisson nous rejoignent. Alors à tout de suite.
Bouge pas. Chute, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Bang bang, j'ai gratté tous les tickets de
c'est ce qu'il te faut demander pour que tu te penches sur ma tête. Parce que moi j'ai tout essayé, j'ai beau pousser, je suis à sec. Va leur dire que je ne suis pas à plaindre, va leur dire que je n'ai rien à craindre jusqu'au prochain rien.
On écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Le coup de cœur, plateforme de la semaine.
Allez, notre coup de cœur plateforme cette semaine est consacré à Mère Indigne qui va être mis en ligne sur France.tv. 10 épisodes que vous allez pouvoir vous délecter des aventures de cette maman un peu dépassée par moment, il faut le dire. On a la chance d'avoir le producteur aujourd'hui, Khaled Amara, qui est là. Bonjour.
Bonjour, ravi d'être là, merci de nous inviter.
Merci d'être là. On a les deux réalisateurs hein, puisque Anne-Elisabeth est très impliquée dans le projet et co-réalise les épisodes. Bonjour.
Bonjour, j'ai écrit la série avec le producteur.
Franchement, c'est presque une histoire de famille, là, tous les trois. Et puis Romain Fisson, qui est avec nous, qui co-réalise avec toi Anne-Elisabeth, qui est là aussi. Bonjour Romain.
Bonjour, merci de nous inviter, merci de nous recevoir.
Alors, où est venu le projet? Racontez-nous, qui c'est qui a envie de nous pitcher un peu la base, la genèse de Mère Indigne? Khaled.
Alors ouais, je me lance. C'est venu d'Anne-Elisabeth, qui est maman, pas du tout indigne, mais comme les personnages de Rachel dans la série. Elle est venue parce qu'on avait envie d'écrire ensemble déjà, mais ça a été nourri aussi par un questionnement qui va concerner beaucoup de nanas qui sont mamans, mais qui bossent, qui sont amoureuses, amantes, collègues, amies. Et parfois, à notre époque, c'est pas facile de cumuler tout ça et d'être au top tout le temps. Donc voilà, comment une fille de cette génération peut faire face autant que possible à toute cette pression, tous ces enjeux, en riant. Je pense qu'on a réussi.
On rit beaucoup, franchement, et on rit de bon cœur avec cette maman qui vient d'être fraîchement séparée de son mari. Enfin, c'est plutôt son mari qui s'est séparé d'elle, parce que Arel, elle n'est pas du tout encore séparée dans sa tête. Hein. On a l'impression quand même qu'elle lui court encore un peu après.
Alors, effectivement, c'est elle qui a pris la décision de divorcer. Puisque au bout de 10 années à vivre en commun, avec leur petite fille qui a maintenant 8 ans, bon, ils étaient devenus plus colocs qu'amants, que dans la passion du début. Et donc, elle prend une très très bonne avocate. Elle a une très très bonne avocate. Et elle s'en sort plutôt bien de ce divorce. En termes de, voilà, je garde l'appart, j'ai une bonne pension, j'ai la majorité du temps de garde de ma fille. Et elle apprend assez vite que son ex-mari sort avec son avocate du divorce. Et à partir de là...
Son avocate à lui, son avocate à elle, c'est plus marrant.
Son avocate à
c'est
elle.
Plus vexant.
Voilà, donc voilà, elle est vexée, trahie, humiliée, blessure d'orgueil. À partir de là, elle commence à se perdre un petit peu. Ouais. Et donc évidemment, la première idée et la plus mauvaise, c'est de se dire, je vais le récupérer, nanana, comme ça, voilà, elle l'aura pas. C'est vraiment l'orgueil qui parle. Et évidemment, elle se heurte à un mur. Et ensuite, elle va prendre une série de décisions qui vont l'amener, voilà, à être pathétique dans le regard des autres. Et ça va se terminer pas très très bien pour elle.
Oui, mais il y a plein d'aventures qui vont arriver et qui vont nous faire beaucoup rire, évidemment, entre les deux. Pour la partie réalisation, Romain, quand on met en scène et qu'on réalise avec une comédienne principale qui est aussi co-réalisatrice, est-ce que ça amène des moments truculents entre les deux réalisateurs, là?
Je dirais pas truculents. Je dirais que c'est tout à fait autre chose parce que les rôles, ils ont été bien définis très en amont et que Anne arrivait à la réalisation sans bagage technique que moi, je pouvais amener. Et au contraire, moi, n'ayant pas écrit la série, j'avais besoin que Anne apporte toute sa vision, toute sa direction artistique. Qu'est-ce qu'elle a écrit vraiment? Qu'est-ce qui doit être dans la série, finalement? Et en fait, on a décliné ce rapport-là et ces tâches-là bien définies, surtout sur la préparation, sur le tournage, sur la post-production. Et en fait, on s'est très bien entendu. En fait, il s'est avéré que j'ai pu comprendre très vite la vision de Anne et Khaled aussi, hein, bien sûr, parce que comme ils ont co-écrit ensemble, c'était à eux deux d'être convaincus par ça. Ils ont été d'accord avec mes propositions de mise en scène et ma façon de poser mon regard sur ce personnage et sur ce qui lui arrivait. Et on s'est pas retrouvé dans une situation particulièrement truculente, à part que je jouais de ma position par rapport à elle sur le plateau pour être un peu dictateur, quoi, pour lui donner.
Disais aussi.
pour lui donner des ordres, pour l'embêter, pour lui dire qu'elle avait dérangé 45 personnes tous les matins pour quand elle était chez elle à écrire son texte. Là, c'était bien beau. Puis maintenant, il y a 45 personnes qui se levaient tous les jours pour trimer à cause d'elle, quoi.
Est-ce que t'as pu te venger ?
Non, vraiment, je n'ai pas à me venger de Romain. Romain a été a mis en place un dispositif technique sans lequel on n'aurait pas pu faire rentrer la série en cette semaine. On avait un dispositif léger, rapide, on bougeait très très vite et c'est comme ça qu'on a pu rentrer la série en étant qualitatif sur l'image, sur le jeu. Voilà.
Parce qu'il faut savoir que l'économie quand même d'une série pour une plateforme comme France.tv et l'économie du numérique n'est pas du tout la même qu'une économie de télévision. Il faut trouver justement des chemins de traverse pour arriver à économiser sur tous les plans.
C'est grâce à Romain que techniquement la série a pu rentrer dans le planning. Vraiment.
Il y a un souvenir particulier de tournage.
Je me souviens que j'avais une tenue, j'avais une robe rouge, un manteau en fourrure bleue et des bottes hautes dorées.
Très sobre.
Ouais, très sobre, mais je me disais quand même un peu bonasse la meuf. Et Romain me voit débarquer, il dit ah bah d'accord, Michel Blanc dans tenue de soirée, merci beaucoup, au revoir. Et voilà. Et du coup, à chaque fois que je remettais le costume, c'était bon, on attend Michel Blanc là sur le plateau, qu'est-ce qu'il fait ? Et voilà, pour donner l'ambiance.
C'est un compliment, c'est une belle comparaison.
Oui, non, une belle comparaison, mais bon, c'était vraiment très très drôle. Et tout le tournage était rempli de petites choses comme ça.
10 épisodes qu'on découvre sur France.tv. On va s'en délecter évidemment, je pense, assez vite. Alors est-ce que vous, en tout cas, vous avez déjà une idée de la suite ? Vous avez envie de faire une saison 2, plus clairement ?
Très très envie. Et après, quand on a vendu la Mère Indigne, le projet, la saison 1, on avait un petit chapitre, voilà ce qui pourrait se passer en saison 2. Donc on avait quelques idées dans notre tête, maintenant on attend le voilà.
Et donc oui, on a une idée de la saison 2, si c'était le début de la question. Oui, on a une idée de la saison 2, on n'est pas décideur, même si les gens qui ont décidé de nous accompagner sur la saison 1 aiment beaucoup la série. Donc après c'est à eux de jouer, quoi.
Vous en avez très envie, tous les trois.
Ah oui, complètement, je re-signe quand vous voulez.
Et ben voilà, bon, on te retrouve dans Scène de Ménage évidemment tous les soirs à 20h30 sur M6. Ça c'est le rendez-vous à ne pas manquer aussi avec ce couple, avec Emma et Fabien, qu'on adore tant aussi. On va écouter la bande-annonce, on va revenir dans un instant, juste après avec Bayareas et Jean-Baptiste Chenmerdine, qu'on va retrouver aussi. On va parler de leurs personnages, de Mathieu et Kenza. Dans quelques instants, merci les amis et à très bientôt.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Vous fumez, vous arrivez en retard une fois sur une, vous menez une vie plus ou moins dissolue.
Est-ce qu'il ne me regarderait pas s'il n'y avait pas une enfant dans l'équation ?
Je me fais des soucis pour ta fille.
Voilà, tu te calmes direct, toi.
On danse encore un peu ?
Trop parfaite, on ne l'aimerait pas.
Ouais ! Je suis moi, et ensuite je suis mère.
M'oblige pas de demander la garde, putain.
Est-ce que vous trouvez que j'ai l'air taré ?
Faut vraiment que tu te reprennes en main, hein.
Mère Indigne, une série irréprochable. Disponible dès le 1er décembre sur la plateforme France.tv.
Allez, on parle de Mère Indigne après Anne-Elisabeth Blatteau. Eh bien, rendez-vous maintenant avec Jean-Baptiste Chenmerdine, qu'on est très heureux de retrouver depuis nos chers voisins. Franchement, on ne se quitte plus. Bonjour.
Ben bonjour, je suis très heureux aussi.
Merci d'être là. Et Bayareas, également une habituée de l'émission, qu'on suit depuis très longtemps. Bonjour Baya.
Bonjour.
Alors, c'est les rôles de Kenza et de Mathieu, voilà, qu'on va découvrir dans cette série. On va parler de vos rôles un peu à tous les deux, puisque Mère Indigne, ça débarque sur France.tv, et c'est une série où Anne-Elisabeth a donné beaucoup, justement, et très impliquée aussi. Donc c'est un projet, je sais qu'il lui tient énormément à cœur. Qu'est-ce qui vous a attiré, en tout cas, dans ces filets ?
L'écriture, c'est très drôle à la lecture, vraiment très drôle. J'ai eu des fous rires toute seule. Et le propos est très, très concernant. Je suis moi-même maman de deux enfants. Et donc, parler de la charge mentale et de la maternité, ça ne pouvait que me parler. Donc, vraiment, c'était les deux gros arguments pour me faire venir. Et en plus, le rôle de Kenza est un rôle d'une épaisseur hyper rare, je trouve. C'est un personnage très complexe. Je voyais déjà que j'allais avoir du bonheur à l'interpréter parce qu'elle a un superbe parcours.
Pour toi, Jean-Baptiste, qu'est-ce qui t'a attiré dans les filets d'Anne-Elisabeth et Romain ?
Alors, moi, je connaissais un petit peu Anne-Elisabeth, que j'avais pas vue depuis longtemps. Quand elle a proposé à mon agent et donc mon agent m'a proposé, j'étais déjà très touché qu'elle pense à moi. Je trouvais que c'était une très bonne idée de se retrouver puisque moi j'ai fait Nos chers voisins, elle, Scène de ménage, et du coup c'était marrant de faire une sorte de crossboard. Et du coup, j'ai lu et j'ai trouvé super. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai lu quasiment tout en un soir. Moi, je me couche tard, donc j'ai dû finir à 3h du mat. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, la première pensée que j'ai eue, c'est « Ah, je vais continuer à... » J'avais envie de rester avec les personnages, sauf que j'avais lu les 10 épisodes. Et du coup, il n'y avait plus rien à lire. mais je trouvais ça super attachant, super moderne, super rock'n'roll. Enfin, super. Moi, en plus, j'écris moi aussi, et du coup, je peux être un peu sévère des fois quand je lis des choses. C'est comme toi, Baya, je pense que tu vois, on est un peu habitué. Et là, j'avais rien à redire en fait. J'avais rien à. Je me disais pas, ah, ok, bon, ça changerait ça. Donc, c'était super.
Vos personnages à tous les deux, comment vous les définiriez ?
Alors, Kenza, c'est une maman qui subit la pression sociale de plein fouet, mais qui a décidé de l'embrasser, si je peux dire. C'est-à-dire que elle veut être la mère parfaite. Et du coup, elle a une espèce de posture sociale qui peut être très déconcertante pour les autres mamans qui n'assurent pas comme elle.
Elle va même donner des conseils, quoi, presque. Hein.
Elle va donner des conseils, et puis pour elle, il y a une manière d'éduquer les enfants, et il faut le faire comme ça, de sa manière. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que derrière ça, forcément, il y a des fragilités, parce que tout ça n'est qu'une posture, et forcément, elle le vit pas aussi bien que ça. C'est une sorte d'équilibriste, voilà.
On va découvrir tout au fil de ces épisodes. Alors Jean-Baptiste, on y revient du coup. Ce personnage de Mathieu, t'as le temps de réfléchir du coup.
Ouais, en fait, il est assez double parce que c'est un fêtard. Quand il fait la fête, il fait vraiment la fête, salement même, je dirais. Mais par contre, il est gérant d'une boutique de fleurs. Et quand il est au taf, et d'ailleurs, il en ouvre une deuxième dans la série. Et quand il est au taf, il est très 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 carré, ce qui va créer des tensions avec mon amie d'enfance, qui est donc jouée par Anne-Elisabeth, parce que, elle a du mal à gérer tout. Et que moi, quand je suis au boulot, je suis pas du tout en train de faire la fête.
Oui, t'as une apparence de bien gérer la situation dans n'importe laquelle, quoi.
Ouais, vraiment quand je fais la fête, je lâche prise, mais par contre, quand je taffe, on rigole pas, quoi. Et du coup, c'était intéressant parce qu'il y avait vraiment deux directions assez opposées à lier pour en faire un seul personnage.
C'est ça. Qu'est chouette quand on joue des personnages comme ça. On a tendance, quand on a des réalisatrices du coup, parce que vu qu'elle est aussi à la réalisation et qu'on connaît en plus la réalisatrice, que c'est des fois une amie hein, pour certains, est-ce que ça te met une petite pression supplémentaire ou pas ?
Moi oui, parce que je connaissais Anne.
Et tu connais le métier de réalisatrice toi, hein, plus que jamais aussi.
Et ben justement, j'ai connu Anne comme ça parce que je la dirige dans Scène de ménage. Et donc je ne la connais, elle me connaissait qu'en tant que réalisatrice. Et elle m'a proposé le rôle sur mon travail de réalisatrice. Et du coup, j'avais une pression parce que elle me disait, j'adore comme tu travailles. Pour moi, tu t'y connais en comédie, c'est sûr. Je sais pas comment tu joues, mais je sais que tu vas assurer sur ce rôle. Et du coup, j'avais une pression énorme parce que c'était un énorme pari qu'elle faisait sur moi. Et j'avais à cœur de ne pas la décevoir.
Vous avez switché, voilà. Du coup, vos rôles à toutes les deux. Pour toi, Jean-Baptiste.
Non, moi j'avais. En fait, moi, je me mets toujours une pression très grande, quels que soient les projets. Donc, de toute façon, je suis déjà au max. Et au contraire, je pense que d'avoir Anne-Elisabeth en co-réal, donc que je connaissais, et en partenaire principal, ça m'a plutôt détendu parce que je me suis dit, si elle m'a choisi, c'est qu'elle sait que vraiment.
Que le personnage.
Ouais. Et du coup, ça m'a un peu enlevé de pression quand même. Évidemment, j'avais toujours cette pression et je voulais pas la décevoir parce que elle avait pensé à moi, que j'avais pas passé de casting. Donc c'est toujours pareil. Quand on passe pas de casting, on se dit, ah putain, faut quand même que je sois à la hauteur. Mais il y avait comme une sorte d'affection qui m'entourait et qui me protégeait. Tout le monde était hyper bienveillant, que ce soit Romain ou Anne-Elisabeth, malgré la pression qui était très grande parce qu'il y avait pas tellement de temps et qu'il y avait pas un budget énorme, etc. On était comme portés par cette espèce d'ambiance qu'ils ont réussi à créer.
Surtout, moi je trouve qu'on avait deux réalisateurs qui étaient ouverts aux propositions et c'était dingue. On avait un espace de création et de liberté incroyable. C'est-à-dire que on est dans des économies qu'on connaît, ces économies du digital, on les connaît, on va pas se mentir, mais on avait la place et l'espace pour proposer des choses et se dire, on en fait une ou deux et on essaye comme ça et puis après on voit si ça marche, si ça marche pas. Moi je te propose autre chose, viens, on se rejoint au milieu. Et ça c'était vraiment génial parce que du coup on a pu créer et caractériser des personnages qui étaient déjà très très bien caractérisés, hein, mais on a pu les amener vraiment vers nous.
On termine par vos projets à tous les deux.
Alors moi je suis en tournée avec Cartman et Laetitia Millot pour une pièce qui s'appelle Un dîner d'adieu, des auteurs qui avaient fait Le Prénom. Et après, il y a des choses, mais c'est pas signé, donc.
On attend, tu reviendras. Baya, mise en scène, un peu de la réalisation, du long métrage peut-être aussi bientôt.
Non, pas de long métrage malheureusement, mais je vais répéter pour une pièce que je jouerai de janvier à mai au Théâtre Le Pic à Paris.
Et ben voilà. Merci à tous les deux, merci Baya, merci Jean-Baptiste d'avoir été avec nous pour cette spéciale Mère indigne qu'on va découvrir sur France.tv. On va pouvoir se délecter puisque tous les épisodes vont être mis en ligne d'un coup en plus.
Regardez, je peux finir, je vais regarder parce que c'est très drôle. Et c'est en même temps très émouvant et très vrai.
Avant de regarder, on va même écouter. Voici un petit extrait rien que pour vous.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, on aura le grand honneur de recevoir Lajli qui sera notre invité exceptionnel pour la sortie du film Bâtiment 5. On aura également l'occasion de recevoir l'équipe de répercussion avec notamment les producteurs mais aussi la réalisatrice et puis Marie Desnarnaud qui sera avec nous sur France 2. Ça sera diffusé le 6 décembre. Soudain Seul également, c'est la sortie cinéma à ne pas manquer. Mélanie Thierry et Thomas Bideguin seront nos invités pour en parler, évidemment. Vous l'avez compris, on ne va pas s'ennuyer.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Et je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Partagez un moment convivial et chaleureux en écoutant Chute, on écoute la télé avec Iruac, votre marque de boucherie charcuterie basque qui fête ses 50 ans de savoir-faire avec ses recettes savoureuses et typiques du Pays basque et du Sud-Ouest. Retrouvez vos produits Iruac dans vos grandes surfaces. Toutes les infos sur iruac.fr.